Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Patience Ngalula à la présentation. À la une de ce journal, des minéraux d'essence se trouvent-ils dans les produits fabriqués par Apple? En tout cas, les autorités de la RDC accusent les géants américains du numérique d'utiliser des minéraux exploités illégalement sur les sols congolais par des groupes armés soutenus par Kigali. La RDC adresse ainsi une mise en demeure à Apple via deux avocats français mandatés par le pays. Les élèves finalistes du primaire et du secondaire de toute la province du Nord Kivu exonérés de frais de participation aux examens d'État, c'est le gouvernement central qui a pris en charge ces élèves compte tenu de la situation des guerres que traverse la province, annonce la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation. Il nous vient du Maniema. L'invité de ce journal est Dr Stanislas Kakomba, médecin-chef des zones de santé de Ferekeni. Il lance un appel à l'aide humanitaire pour les sinistrés de la montée des eaux du fleuve Congo dans sa zone, surtout les enfants de moins de 5 ans. Bonsoir. La RDC accuse la société Apple, qui commercialise notamment l'iPhone et les ordinateurs Mac, d'utiliser ces produits des minéraux qui proviennent des sites d'exploitation illégale. En guise d'avertissement, une mise en demeure a été adressée cette semaine à Apple par la RDC via deux avocats français mandatés par le pays. Des questions ont été envoyées à Apple dans ses courriers et des réponses claires d'Apple et de ses filiales en France sont attendues dans un délai des 3 semaines, affirme le gouvernement dans un communiqué rendu public ce jeudi à Kinshasa. Explication de Cynthia Bachizina Bizana.
Minéraux de sang, le blanchiment d'étroité de la RDC par le Rwanda et les entités privées. C'est le nom du rapport publié par la Task Force Justice Internationale qui fonde la démarche de l'État congolais. Explication du gouvernement dans son communiqué de presse. C'est clair que ça peut être une démarche dissuasive et qui peut nuire à l'image d'Apple, affirment des experts interrogés. Mais plus loin, cette action peut aussi avoir un impact négatif pour le secteur, surtout dans l'Est de la RDC, avec des consommateurs finaux à l'échelle internationale qui peuvent se méfier de tous les minerais produits dans cette partie du pays, regrette un opérateur minier. Il aurait fallu que le gouvernement épingle les sites sous contrôle du M23, renchérit une autre source. Cela notamment parce que le pays a souscrit à plusieurs mécanismes de traçabilité grâce auxquels l'exportation de nos minerais se poursuit officiellement à partir de certains sites du Nord-Sud Kivu ainsi que du Maniema, même si le risque zéro de fraude n'existe pas. Tout compte fait, les avocats mandatés par la RDC pourraient entreprendre des actions appropriées en justice contre Apple si les réponses fournies ne sont pas satisfaisantes à l'issue de cette mise en demeure.
Pendant ce temps en Ituri, différentes couches de la population restent optimistes quant à l'issue positive du dialogue intercommunautaire pour la paix durable dans la province de l'Ituri. Débuté jeudi en présence du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, ces assises ont pour objectif d'impliquer tous les acteurs afin de poser un réel diagnostic des causes de l'insécurité en Ituri dans l'espoir de trouver des solutions durables afin de pacifier totalement cette province meurtrie par des conflits depuis décembre 2017. Suivez.
Leader de 21 communautés de l'Ituri, responsable de confessions religieuses, chef coutumier, membre de la société civile et des organisations des jeunes prennent part à cette table ronde pour la paix. Tous sont unanimes pour trouver des vraies causes de cette persistance des conflits armés dans cette province pour y chercher des solutions durables entre Ituriens. Pour Michel Meta, coordonnateur des lignes des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, il a dit, le moment est venu pour que les Ituriens trouvent solution aux problèmes sécuritaires qui rongent cette province depuis plusieurs années.
Le moment a sonné de se mettre autour d'une table, discuter. Et l'État aussi de son côté doit mettre la pression sur ceux qui refusent de mordre à la maison de la paix et de leur imposer une paix pour qu'il y ait une paix durable.
Selon des organisateurs, à la fin des travaux, un plan d'action communautaire pour la consolidation de la paix sécuritaire et de cohésion sociale en Ituri sera élaboré. Une commission mixte des suivis des actes d'engagement signés par les 5 groupes armés actifs FRPI, FPIC, IRDPC, Barkodeko, Zaïre et MAPI sera également mise en place. Bounia, Martial, Kizabia Bongo, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika, le parquet général près la cour d'appel de Kalemie a arrêté certaines autorités du secteur de Kamalondo dans les territoires de Manono il y a quelques jours. Il a aussi perquisitionné la résidence de l'administrateur du territoire. Dans une déclaration ce vendredi à la radio Kapi, l'autorité de cette entité dénonce des arrestations arbitraires. Au parquet général de Kalemie, on annonce l'ouverture d'une enquête à Manono sans donner d'autres précisions. Les points avec Paulin Munanga.
Le substitut du procureur général de Kalemie est en mission de service dans les territoires de Manono depuis quelques jours. Il est en train de mener une enquête sur base des faits qui ont été dénoncés, signale une source au parquet général près de la cour d'appel de Kalemie, sans donner de détails. Cependant, certaines sources rapportent que le parquet général a ouvert une enquête pour fraude minière et braconnage à Manono. D'après l'administrateur du territoire de Manono, le substitut du procureur général a arrêté les chefs de secteur de Kamalondo et les chefs de service de l'environnement pour avoir ordonné l'abattage d'un éléphant l'année dernière. Des Chinois sont aussi aux arrêts. D'après lui, il s'agit des arrestations arbitraires. Il dénonce aussi la perquisition de sa résidence en son absence. Cyprien Kitanga.
Les chefs de secteur, il est arrêté. Pourquoi on a bâti cet éléphant-là, l'éléphant-là qui a tué l'enfant à Kamalondo. L'homme de l'environnement aussi, il est arrêté. Nous avons demandé qui était le plaignant, ils n'ont pas de plaignant. Ils ont commis que l'enfant. C'est une arrestation arbitraire. Il y a les Chinois qui sont à la concession de M. Aldo à Kabombo. On ne sait pas leur infraction. Le substitut est venu avec l'intention qu'il y avait le minerai, le cuivre, l'or, l'administrateur cache le minerai. Lui-même a cassé la clé du véhicule.
Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, célébration ce vendredi 25 avril 2024 de la Journée africaine de la détention préventive, instituée à l'initiative du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Dans une déclaration à la presse à Kinshasa, à cette occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a recommandé au gouvernement de recourir fréquemment à la procédure des libérations conditionnelles des prisonniers afin de contribuer au désengorgement des milieux carcéraux. Paul Nsapumukulu a réitéré la volonté de la CNDH de demeurer sur la ligne de l'amélioration conformément aux standards internationaux des conditions de détention carcérale en RDC. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La commémoration de cette journée nous place devant notre responsabilité d'évaluer les conditions carcérales, lesquelles dépendent certains droits dont la santé, l'alimentation et l'environnement. L'institutionnalisation de cette journée vise à engager les institutions nationales des droits de l'homme à davantage œuvrer en vue d'une réduction de l'usage excessif de la détention préventive, y compris par la promotion des réformes juridiques et des politiques pénales sur les alternatives à l'incarcération, les interventions parajuridiques et l'évaluation de la détention préventive. Les États sont encouragés à apporter un encadrement législatif à la détention préventive. La CNDH tient à suivre de plus près cette situation afin de parvenir à des avancées législatives qui promeuvent et protègent les droits humains ainsi que les valeurs des dignités humaines dans les milieux carcéraux.
Au Nord Kivu, fin du suspense pour la question des frais de participation aux examens d'État 2024. Finalement, les élèves finalistes du primaire et du secondaire de toute la province seront pris en charge par le gouvernement central, rassure la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation. Elle précise que les fonds sont déjà débloqués selon Priska Luanda Kamala. Cette subvention spéciale du gouvernement prend en compte à la fois le test de fin du cycle primaire, TENAFEP et TENASOSP ainsi que l'examen d'État. Ces propos sont ici recueillis par la presse du gouvernorat.
On a trouvé que toute la population du Nord Kivu sur le plan social est entre guillemets déplacée parce que si vous n'êtes pas dans les camps, vous recevez aussi des déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Alors, les plaidoyers ont été faits auprès du président de la République C'est avec satisfaction que le gouverneur des provinces a reçu les messages que les frais sont déjà débloqués. Comme vous le savez, à l'école primaire, nous avons la gratuité. Mais aussi, au niveau de la 8e année, nous avons un examen qu'on appelle TENASOSP, qui sera aussi pris en charge par le gouvernement central, et l'examen hors session et la session ordinaire de l'examen d'État. Les parents qui avaient déjà payé les frais de participation à l'examen d'État, il y a déjà une note que nos services doivent écrire pour qu'on puisse rembourser cet argent. Mais aussi, ceux qui continuent à faire payer, ils doivent arrêter parce que le gouvernement central a déjà pris en charge les frais liés au TENAFEP, au TENASOS, à l'examen hors session et la session ordinaire de l'examen d'État.
La conseillère spéciale du gouverneur annonce par la même occasion que les malles contenant les copies des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 sont déjà à Goma. Les épreuves débuteront début mai prochain. Dans le domaine de la santé et de la reproduction, les fonds de solidarité de santé, FSS, est en train de faire l'évaluation de son programme de prise en charge médicale gratuite des femmes enceintes avant, pendant et 28 jours après l'accouchement à Kinshasa du 24 au 26 avril courant. D'après Lubala Kampema, son directeur général, plus de 85 000 femmes et nouveau-nés ont bénéficié de ces programmes mis en place par les gouvernements depuis le mois d'octobre 2023. Écoutez un extrait de l'entretien qu'il a eu avec Tati Mapoku.
Si je me rappelle bien les chiffres qui ont été présentés, on doit avoir déjà eu 85 000 personnes qui sont passées à travers le système. Nous y allons progressivement. Actuellement, nous avons une représentation à Kinshasa, nous avons une représentation à Matadi, nous avons une représentation à Kisantu. Et au fur et à mesure des demandes, au fur et à mesure des programmes qu'on met en place, on va s'étendre progressivement sur le reste du pays. Le point de départ est toujours une accréditation par l'ARCSU. C'est l'ARCSU qui a les conditions, qui vérifie qu'un centre de santé, une formation sanitaire, un établissement de soins de santé est viable d'abord. Viable du point des équipements, viable du point de vue du personnel qui est en place, viable. Par exemple, ils vont aller regarder s'il y a de l'eau courante dans l'hôpital. S'il n'y a pas de l'eau courante, on ne peut pas l'accepter. Et aujourd'hui, on a ajouté les conditions fiscales, parce qu'il faut montrer qu'ils ont un numéro d'impôt, il faut montrer qu'ils ont un compte bancaire, parce que nous, on ne donne pas de l'argent en main. Quand l'ARCSU a dit, bon, voilà la liste de ceux qui sont accrédités, maintenant nous pouvons signer une convention.
Et puis, les phénomènes enfants en situation de rue, communément appelés Chege, nous amènent dans la ville de Kolwezi, dans les Lualaba. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, ces enfants sont très agressifs et ne laissent rien à leurs victimes. Le Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba plaide pour leur encadrement car ils constituent un danger public. Grâce à Mzati.
Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans sont visibles à plusieurs endroits. C'est notamment à Kasulu, Chamanzika, Manika et Kanina et Wabura. Ils y sont tout au long de la journée au point que certains passent la nuit au marché à la Belle Étoile, s'exposant à toutes sortes d'intempéries. Au regard de l'ampleur de la situation, le président du Conseil provincial de la jeunesse lance un SOS aux autorités et aux organisations de protection de l'enfant. Emmanuel Mouteb.
Les enfants qui arrachent les téléphones, les sacs, ils dérangent les paisibles citoyens, ils coupent à un moment donné des routes, ils arrachent les téléphones, l'argent. Les gouvernements provinciaux, comme les partenaires au niveau national et international, ils doivent récupérer tous ces enfants pour leur insertion sociale, en les mettant dans des centres de formation de métiers pour qu'ils soient utiles dans la société.
Le ministre provincial de l'Intérieur indique qu'il a demandé au maire et au bourgmestre des deux communes que compte la ville de Kolwezi, ainsi que celui de Fungurume, de conjuguer les efforts pour juguler ces phénomènes qui ternit l'image de la province. Deoda Kapen rassure que le gouvernement provincial du Lualaba étudie les stratégies à mettre en place pour le bon encadrement de ces enfants, avec l'implication de la société civile et des structures qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant. De Kolwezi, grâce à Mzati Masanzi, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, les services étatiques et acteurs locaux qui s'occupent des infrastructures participent depuis ce jeudi 25 avril à une session de validation des pistes rurales identifiées par l'OVDA Maniema et sélectionnées par ordre de priorité en ateliers territoriaux de Kibombo, Pugna et Lubutu par les acteurs locaux. Ces assises visent à sélectionner de façon participative les tronçons prioritaires des voies des dessertes agricoles à réhabiliter par les programmes d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Son coordonnateur provincial, Alphonse Mata, explique au micro de Florence Kizalunga.
On a eu des ateliers au niveau des territoires. Maintenant, au niveau provincial, il est question ici de voir si ce qui a été fait au niveau territorial a une logique, si ça tient compte des synergies des différents investissements et s'assurer aussi qu'il y a une cohérence du point de vue des choix programmatiques, mais aussi de recueillir les avis et considérations des partenaires étatiques en ce qui concerne les pistes qui ont été sélectionnées au niveau du territoire. Oui, c'est dans les soucis de faciliter les mouvements des populations, les mouvements des produits agricoles au niveau des bassins de production retenus par le programme PADER. À la fin de cette session, il y aura un procès verbal qui sera signé où les différentes pistes qui vont faire l'objet de notre intervention durant cette année, le PV sera établi et signé par les différents membres et cela va nous permettre cette fois-là de procéder aux travaux. Nous attendons des participants de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour que demain qu'on ne dise pas que voilà, PADER a agi en solo. Nous voulons vraiment que le gouvernement soit partie prenante au travers de ces acteurs, que tout le monde se sente à l'aise parce que tout le monde a participé.
Et puis, cette information sportive quitte au double pour le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Les corbeaux seront reçus au coup de 20h, heure de Kinshasa, par la formation des Al Ahly d'Égypte. Ces matchs rentrent dans le cadre de la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique. Au match aller joué à Lubumbashi, les deux équipes s'étaient séparées sur les scores des 0-0. Vous aurez d'autres précisions dans les journaux des sports de tout à l'heure sur Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis vont retirer temporairement des soldats du Tchad, a annoncé le Pentagone quelques jours après leur accord pour retirer leurs forces du Niger voisin. Au Tchad, les États-Unis disposent d'une centaine de soldats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ces retraits, même temporaires, soulèvent une vague de questions.
L'invité.
Il nous vient du Maniema, Dr Stanislas Kakomba, médecin-chef des zones de santé de Ferekeni. Certaines aires de santé de cette zone sont frappées par la montée des eaux du fleuve Congo. Victimes, ces professionnels de santé donnent quelques conseils et lancent un appel à l'aide humanitaire pour les sinistrés, surtout les enfants de 0 à 5 à 9 mois. Dr Stanislas Kakomba s'entretient avec Florence Kizalunga.
Dr Stanislas Kakomba, bonjour.
Bonjour Florence.
Certaines aires de santé de votre zone de santé de Ferekeni attaquées par la montée des eaux du fleuve Congo. Côté sanitaire, comment vivent les communautés de ces aires de santé?
Après cette catastrophe, la communauté de l'aire de santé de Toubila et celle de Koé vivent dans une situation précaire. C'est-à-dire ils ont abandonné leur ménage respectif pour vivre ailleurs, parfois dans des petits campements au-delà du fleuve, parfois dans d'autres maisons d'accueil.
Parmi les victimes, qui sont les plus affectées?
Bon, d'abord, c'est toute la communauté concernée qui est affectée, mais d'une manière particulière, j'estime que les enfants 0 à 59 mois sont les plus concernés de cette circonstance parce que là, ils seront exposés à toutes les maladies hydriques et d'ailleurs, les latrines sont détruites. Et quand les latrines sont détruites, voilà comment est-ce que l'eau est en train de ravager tout l'espace de ce village. Et là, la défécation devient contrôlée. Et là, la propagation de plusieurs sortes de microbes est à la portée de ces enfants. Et ces enfants 0 à 59 mois que je déclare, c'est la catégorie la plus touchée, risquerait de connaître un désastre, si je peux dire ainsi. Et entre-temps, ce sont ces enfants-là que nous sommes en train de chercher comment les protéger.
Est-ce qu'à cette période, dans des hôpitaux, il y a déjà des cas de maladies d'origine hydrique qui sont enregistrés?
Bon, j'ai des données épidémiologiques qui sont en train d'être partagées entre nous, l'équipe cadre et les déserts de santé. Oui, certains cas sont déjà enregistrés dans les déserts de santé, que ce soit Toubila, que ce soit Koé. Et la diarrhée est là déjà, mais on est en train de penser comment prévenir que guérir.
À ces 2 heures de santé, la population est estimée à combien?
Bon, toutes les 2 heures de santé ont une grande population. et c'est dans les 20 000 habitants dans le désert de santé. Et nous estimons que la population qui est atteinte avec cette catastrophe est à 80% de cette communauté de déserts de santé.
Une catastrophe naturelle qui pousse certains à quitter leur ménage. Quel comportement adopter pendant cette période, docteur?
Là, c'est en amont et en aval. Par rapport au comportement sanitaire avec l'hiérarchie, nous allons prodiguer les conseils, les CCC, changement de comportement, et nous allons demander à la communauté de bien se comporter, d'utiliser de l'eau propre, éviter d'efféquer ça et là, parce que là, après la pluie, il y aura propagation des germes, et ça, c'est en amont. En aval, nous disons que la hiérarchie puisse penser, parce que d'abord, c'est leur communauté, il faut... Peut-être, si je peux dire comme ça, penser à ravitailler certains médicaments pour lutter contre la diarrhée, les iras, les paludismes, c'est-à-dire en un mot, approvisionnement en médicaments est utile, et rendre disponible aussi les tentes, s'il y en a, des moustiquaires, et toutes les personnes de bonne foi peuvent penser à alimenter du point de vue médicamenteuse, du point de vue équipement de lutte contre les infections, nous appelons ça en termes techniques PCI, ça va nous aider à limiter certains dégâts éventuels qui peuvent surgir pour cette communauté.
Justement, docteur, pour ceux-là qui auront les soucis d'assister les victimes, ils peuvent penser à quoi? Quels sont les besoins urgents?
Les besoins urgents, comme je viens de dire tantôt, d'abord, les rendre disponibles, les kits de protection contre les infections. Les médicaments, les structures concernées sont là. Les solités sont très utiles parce qu'en cas de flambée diarrhéique, nous allons recourir à ces solités. Au lieu d'attendre que les cas puissent augmenter d'une manière extraordinaire, et c'est à ce temps-là qu'on doit commencer à approvisionner. Nous demandons les médicaments d'une manière urgente à ceux qui ont la bonne foi. Les médicaments d'abord, les moustiquaires également, parce que là, ils sont dans la forêt. Ils passent la nuit à la belle étoile. Les moustiquaires sont aussi importantes pour que cette communauté soit sauvée de plusieurs difficultés sanitaires.
Docteur Stanislas Kakomba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kiza.
Et c'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mis en onde par Alain Goy, supervisé et coordonné par Jacques-Yves Moulima et Jean-Désiré Kanyama. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.